Я на рейс-квиз не пришла, а на другой.
Я вижу.
На свой рекорд и сетью и...
En préparant cette émission, je me suis dit oula, oulala, ouiouiou, puis je me suis dit autre chose quand même. Dur de faire une émission spéciale rétro gaming sans parler d'émulation. Et qui dit émulation dit oula, oula, you. Enfin, vous avez saisi l'idée. McCarthy n'est pas loin, c'est un peu suspect tout ça, jeune homme. Ne volerais-tu pas le fond de slip d'un jeune développeur japonais désœuvré en t'adonnant au vice de l'émulation? Je ne sais pas. Prenons Kevin 14 ans, notre plus grand fan. Kevin 14 ans est un hardcore gamer, son hygiène de vie, la nerd attitude. Quand il n'est pas sur le net, quoi qu'il lui arrive d'y être en même temps, il se consacre aux jeux vidéo. Il est ouvert d'esprit, Kevin, la preuve, c'est un adepte du rétro gaming. Son genre de prédilection à Kevin, c'est le survival. Un genre assez rare sur Commodore 64, mais bon, comme il le dit lui-même avec ses mots simples, y a-t-il bonheur plus épanouissant que celui de trouver la perle rare parmi une pléthore d'abandonware proposés sur des sites underground? Certes. Là où ça se complique, c'est que pour s'adonner à cette passion si élitiste, il est obligé non seulement de passer par la case émulation, mais aussi de cocher des milliers de petites cases ROM. Quand vous saurez en plus que Kevin a découvert récemment MAME, vous comprendrez sans doute que notre jeune ami a des yeux très très rouges. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il a aussi une épée de Damoclès au-dessus de sa petite tête, notre Kevin. Quand on touche à l'émulation, on a vite fait de se mettre plus ou moins hors la loi, car si nul n'est censé l'ignorer, la loi, dans les faits, ils sont pas nombreux, les Kevin 14 ans, à savoir jusqu'où ils ont le droit de pousser le bouchon du jeu. Fin du petit exemple tiré par les cheveux, tout ça pourquoi? Ben tout ça, simplement, déjà pour savoir dans quelle catégorie vous rangez. S'il vous a semblé que mon exemple était incompréhensible, eh bien cette émission aura sans doute un petit intérêt pédagogique. Si en revanche, vous avez tout compris et que vous avez envie de me frapper, car j'ai aligné les poncifs et les idées reçues, très bien, car nous allons poser quelques questions qui fâchent, à commencer par la traditionnelle. L'amateur de vieux jeux est-il obligé de se mettre hors la loi ? Push Start Radio, c'est la 7ème édition déjà, option gros pixel attitude. Gros pixel tout simplement car la plupart des intervenants nous viennent tout droit du site éponyme, autoproclamé premier site 100% français consacré à l'histoire des jeux vidéo. À mes côtés, le camarade Jean-Paul, docteur Ashout et chargé du courrier du cœur. Bonjour docteur.
Bonjour Nicolas.
Mais aussi Jean-Pierre et Lionel, bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Membre honoraire du site Gros Pixel. Autre invité de marque, Laurent, créateur du site que nous retrouverons tout au long de l'émission par téléphone. Mais avant de présenter dans le détail tout ce beau monde, un gros mix, explication de texte, juste après.
Start Radio.
Prénom Laurent, nom Pixelator, particularité joue de la gratte sur le morceau que nous venons d'écouter, couverture dans le civil l'aiguilleur du ciel, profession sur la toile webmaster du site Gros Pixel. Mais avant de retrouver celui que l'on surnomme El Padre dans le milieu, j'aimerais que nos invités, présents dans le studio, ses employés en quelque sorte, nous présentent leur Pygmalion en quelques mots. Alors Jean-Pierre, parle-nous de Laurent, qui est-il vraiment?
Je ne sais pas, je ne l'ai jamais rencontré.
Quel mystère.
Quel mystère, oui.
Et de ton côté, Lionel, que pourrais-tu nous dire sur Laurent? Comment l'as-tu rencontré?
Par le biais de son site, je dirais que Laurent, c'est GP, c'est Gros Pixel. Si demain, Laurent arrête Gros Pixel, il n'y a plus de Gros Pixel, donc forcément...
À l'origine, n'oublions pas qu'il y avait Émulation France, c'est notre premier chapitre. Chapitre 1, Émulation France, monsieur le webmaster, bonjour.
Bonjour.
Alors avant toute chose, Laurent, j'aimerais que tu nous rappelles les mentions légales, c'est-à-dire le rétro-gaming, accommodé à la sauce émulation, peut-il être consommé sans modération?
Sans modération, non, mais beaucoup, oui. Mais effectivement, légalement, il n'y a pas de cadre légal bien défini. Donc les jeux, qu'ils soient récents ou anciens, sont pas libres de droit et il n'y a pas de date limite au-delà de laquelle ils rentrent dans le domaine public ou alors la limite légale de 50 ans, comme j'en suis même pas sûr en vérité. Donc en fait, les jeux qu'on fait tourner en émulation sont, d'un point de vue strictement légal, ce sont des jeux, à moins que leur éditeur ait renoncé publiquement au droit dessus, ce sont des jeux piratés, on peut les considérer comme des jeux piratés.
Et cette fameuse mention qu'on peut voir sur de nombreux sites, vous pouvez utiliser cette ROM, ce jeu, durant 24 heures, si vous ne disposez pas de l'original, et après vous devez l'effacer, c'est une mention qui existe réellement d'un point de vue légal, ou c'est pour se donner bonne conscience?
Non, ça n'a aucune valeur légale, c'est pour se donner bonne conscience... je dirais même que c'est dans le cas de certains jeux qu'on fait circuler en mettant cette mention en avertissement, c'est même assez hypocrite. Il n'y a pas de cadre légal. Il y a un seuil de tolérance au niveau des éditeurs qui combattent ou ne combattent pas la circulation de certains jeux plus ou moins anciens. Mais non, légalement, ça vaut rien. Théoriquement, on doit acheter l'original. Pour l'instant, c'est encore comme ça.
Voilà, je préférais insister sur ce point tout simplement car le rétro-gaming, dans de nombreux cas, implique de passer par le biais de l'émulation, tout simplement car les supports originaux sont très durs à trouver. Mais on va passer au plat de résistance à présent, si tu me permets, Laurent, les gros pixels. Alors, c'est ma dernière métaphore culinaire. Alors, souvenez-vous, le réseau, tu te souviens, mon camarade Jean-Paul, le réseau n'était qu'anarchie, c'était il y a très longtemps de cela.
Oula.
C'était vieux.
Ça ne rajeunit pas, ça, mon bon monsieur.
Non, l'arrobas n'était pas encore entré dans les mœurs, mais deux hommes virent la lumière. Enfin, en gros, sans les violons, comment est né le site?
Eh bien, le site, il est né du fait que je connais donc Philippe Labus, qui est le deuxième webmaster entre guillemets, encore que s'il n'y a pas vraiment de webmaster dans l'équipe. Je le connais depuis longtemps. Je le connais depuis 90. Depuis octobre 90, on est tous les deux aiguilleurs du ciel, donc on a tous les deux fait l'ENAC à Toulouse. Et on s'est rencontrés là-bas et donc on était tous les deux passionnés de jeux vidéo. À l'époque, on jouait sur Amiga. Enfin, moi, j'avais un Amiga, puis lui, il en a acheté un très rapidement quand il a découvert le mien.
Parce qu'il était sur quoi, lui, auparavant? Atari ST, non?
Moi, j'avais eu un Atari ST auparavant, et puis j'étais passé à l'Amiga après, parce que je le trouvais que... Je trouvais que pour les jeux, c'était un petit peu mieux. Bon, c'est une polémique, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais donc par la suite, on est toujours resté en contact. Pourtant, bon, moi j'ai été muté en Corse et lui à Lille, donc on ne pouvait pas être plus loin l'un de l'autre que ça. Mais on est resté tout le temps en contact, d'abord pendant quelques années par téléphone, et puis après par Internet. Et sans oublier qu'on se voyait assez souvent quand même. Et puis un jour, c'est lui qui a eu l'idée de faire un site d'émulation sur lequel on travaillerait tous les deux. Donc au départ, son idée, c'était de proposer des émulateurs et des jeux rétro, donc vraiment rétro, quoi. C'était rien de bien récent, rien qu'on puisse assimiler à du piratage, uniquement du rétro. Mais ce qu'il voulait, c'était qu'il y ait une partie documentation que j'aurais, enfin, il pensait que c'était plutôt moi qui était mieux en mesure de m'en occuper. Une partie documentation où on aurait décrit les jeux, fait des fiches descriptives des jeux. Donc, quand il m'a dit ça, moi je me suis tout de suite mis au travail. J'ai commencé à écrire quelques fiches. Et puis je me suis rendu compte que j'adorais ça. J'adorais écrire au sujet des jeux vidéo anciens que j'avais connus quelques années auparavant. Et je me suis mis à écrire de plus en plus. Et à partir d'un certain moment, j'avais même des articles qui correspondaient à des jeux qu'on n'avait pas encore de disponibles en téléchargement sur le site. Donc petit à petit, la partie documentation du site a pris le pas sur la partie téléchargement. Et donc donc là, on était encore, ça s'appelait encore Émulation France. Et après, on a commencé à réfléchir à une nouvelle orientation pour le site et un nouveau concept, quoi. C'est devenu Gros Pixel.
Jean-Paul.
Et c'est ce qui a donc complètement enfoncé la différence avec les autres sites traditionnels d'émulation qui se contentaient de proposer des ROM et des émulateurs. À gogo, en veux-tu, en voilà. Là, Émulation France, puis après Gros Pixel, le principe, c'était un peu de donner de l'information en plus sur les jeux.
Voilà, c'est ça. Bon, d'autant plus que c'était plus confortable pour nous, parce que faire un site d'émulation avec des ROM en téléchargement, en très grand nombre, c'est compliqué. Ça pose des problèmes d'hébergement, vraiment, vraiment pas facile à gérer. Et donc c'était vraiment très intéressant pour nous de s'orienter vers la documentation, parce que bon, du texte c'est facile à héberger, écrire, bon, à ce moment là c'était surtout moi qui écrivais, moi ça me plaisait beaucoup, je me découvrais une envie d'écrire que j'avais peut-être ignorée auparavant, et puis effectivement ça, il n'y avait pas beaucoup d'équivalents, il y en avait quand même, il y avait il y avait le site de François Oust, la petite encyclopédie des jeux vidéo, la petite histoire des jeux vidéo, je ne me souviens plus.
Qui a disparu malheureusement, il a été remplacé quelque temps par Pac News, mais le site est plutôt à l'abandon aussi, non?
Oui, j'ai plus de nouvelles de François Oust, je ne sais pas ce qu'il devient, ça fait plus d'un an, un an et demi que j'entends plus parler de lui, c'est dommage parce que son site était vraiment, Pac News, il était vraiment, vraiment bien, il était vraiment unique. Lui, il avait commencé, mais il était un peu tout seul et il avait un peu perdu la motivation. Et nous, avec Philippe, on a réussi à former une équipe et ça nous a permis que le site prenne de l'ampleur, quoi.
Ce qu'il faut expliquer, ça va être le second chapitre, c'est qu'il y a eu un changement de cap, donc Émulation France est devenue Gros Pixel, a proposé plus de contenu, dont les fameuses Gros Mix, dont on n'a pas encore parlé. On va écouter un second extrait, c'est tiré du jeu d'X-Ball et on expliquera le principe juste après. We'll be right back. d'Xball, le gros mix. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, cette émission s'intéresse tout particulièrement au site Gros Pixel. Un gros mix, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement Laurent qu'on entend avec sa guitare, mais il a également un camarade, Olivier, qui participe. Ce sont des reprises tirées de jeux vidéo. Juste avant, c'était une reprise de Turrican. Moi, ça me disait rien. J'étais pas un grand fan de Turrican, mais Jean-Paul, toi, t'as reconnu aussitôt, là.
C'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué, oui, sur l'Amiga, notamment à Turrican 2. Et c'est vrai que, dans matière de jeu d'action sur micro, ben, je pense que c'était le top à l'époque. Hein, ça faisait même envie aux joueurs sur console, tellement c'était fluide, c'était rapide. Il y avait des bonus partout. On pouvait tirer pour faire apparaître des petites briques qui faisaient apparaître des bonus. Enfin, c'était vraiment bien. On se mettait en boule un peu comme dans Metroid.
De Chris
Hulsbeck, qui a fait aussi les musiques de Jim Power, d'ailleurs. Et puis de quelques autres jeux de Rainbow Hearts.
On va demander à Laurent, je pense qu'il est suffisamment fan aussi.
Turrican, donc moi j'y ai pas mal joué sur Amiga, les deux premiers notamment. C'est vrai que comparé aux autres jeux qu'il y avait, aux jeux d'action qu'on avait sur Amiga à l'époque, c'était au-dessus du lot, c'était vraiment bien fini, c'était fluide, c'était intéressant d'un bout à l'autre, il y avait une recherche. Moi, à l'époque, je jouais exclusivement sur micro. Je connaissais pas les consoles. Enfin, je les connaissais, mais je les pratiquais pas beaucoup. Et je me rendais pas compte qu'en fait, c'était un jeu sur Amiga qui aurait pu sortir sur Mega Drive. D'ailleurs, il est sorti sur Mega Drive, mais il aurait pu sortir tel quel. C'était le but du jeu, c'était d'égaler les Japonais dans leur conception du jeu d'action en plateforme. D'ailleurs, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Metroid sur Nintendo.
Et signalons simplement que les gros mix sont apparus sur le site Gros Pixel il y a de cela quelques mois et qu'on peut penser que ça contribue finalement à cette émergence d'une forme de culture particulière. C'est rendre un hommage à une forme de patrimoine au bout du compte que de proposer ces réarrangements de musique que l'on pouvait écouter dans des jeux vidéo de quelques kilobits, kilooctets sortis dans les années 80.
En fait, les gros mix sont... L'idée des gros mix, c'est Olivier qui l'a eu. Bon, Olivier, c'est un ami qui est guitariste. Donc, je l'ai rencontré dans le cadre d'activités musicales que j'ai eues pendant quelques années. Donc, il avait envie de participer au site, mais bon, il se sentait pas d'écrire des articles, etc. Donc, il a réfléchi à une idée qui lui permettrait de participer au site, et il a pensé à ses gros mix. Donc il faut quand même bien dire que 80% des guitares qu'on entend sur les gros mix ont été jouées par lui, notamment dans celui qui vient de passer, la DXBall, c'est lui qui a tout fait. Il a énormément travaillé là-dessus. Mais l'idée a eu du succès, et effectivement, ça rentre vraiment bien dans le cadre du site, dans ce qu'on voudrait proposer de... Le maximum de choses qui puissent intéresser les gens qui viennent, des choses à lire, des choses à écouter, un espace de discussion. Je pense que c'est vraiment un plus pour le site.
Et des X-Ball, justement, c'est quel type de jeu? On se posait la question.
C'est ce qu'on appelle un casse-brique, c'est-à-dire un descendant de Breakout, le fameux jeu de mur de briques qui avait été conçu dans les années 70 par les futurs créateurs d'Apple. Et donc après, par la suite, il y a eu un jeu d'arcade qui s'appelait Arkanoid qui reprenait le principe, mais en ajoutant des bonus, c'est-à-dire que la raquette qui renvoie la balle pour casser le mur pouvait collecter des bonus et devenir plus puissante, plus longue, ralentir la balle, tirer, etc. Et donc c'est un jeu qui est sorti sur PC il y a quelques années, mais il n'a pas été commercialisé, je pense pas. Je crois qu'il était, il circulait uniquement en shareware, et il a été développé par deux Américains, dont un est décédé par la suite. Et cette musique, on l'entendait à l'écran des meilleurs scores. Quand on avait battu un record, on avait le droit de rentrer son nom dans le tableau des meilleurs scores, et on entendait cette musique. On n'a jamais pu retrouver le nom de l'auteur de cette musique. On ne sait pas d'où elle vient, en fait.
C'est un des points les plus intéressants sur le site Gros Pixel, c'est que toutes les rubriques qui sont proposées, chaque élément va contribuer finalement à la mise en place d'une culture. On va apprendre, grappiller morceau par morceau. Le principe d'Internet étant qu'on navigue par lien, il y aura des liens hypertextes qui vont nous amener sur un compositeur, puis un graphiste, sur un autre élément. Et surtout, ça a permis à une une communauté de se créer et chacun a pu amener sa petite pierre à l'édifice. Il faut expliquer que d'Émulation France AgroPixel, vous êtes passé d'une équipe finalement de deux ou trois rédacteurs à beaucoup plus de monde, non? Enfin, il y a des rédacteurs qui sont là régulièrement, il y a entre guillemets des pigistes.
Oui, il y a l'équipe. L'équipe est structurée autour de 4 personnes. Il y a les deux fondateurs, Philippe et moi. Ensuite, sont venus se greffer les deux premiers qui nous ont rejoints, c'est Karl et Jean-Baptiste, alias Jib. Et donc tous les quatre, à une époque, ont formé le noyau dur de l'équipe. Et puis il y a 7 ou 8 autres personnes qui sont venues nous rejoindre, qui font partie de l'équipe officiellement et qui écrivent des articles régulièrement, qui participent aux décisions, etc. Mais par contre, il y a donc comme tu dis des pigistes, encore que bon, ils sont pas payés, donc le terme est peut-être pas approprié. Mais...
Justement, c'est une revendication de leur part. Ils voulaient que je t'en fasse part. C'est fait.
Ouais, ben je leur transmettrai la réponse tout à l'heure.
Très bien.
Donc il y a des gens qui effectivement sans demander d'être impliqués spécialement dans le site, de participer aux prises de décision, etc. Sans être vraiment partie prenante, qui contribue beaucoup régulièrement. Et puis on a pratiquement tout le temps des gens qui se proposent pour écrire des articles. Et en fait, ce qu'il y a de vraiment bien, c'est que on a peut-être eu une cinquantaine de contributeurs. On a pratiquement refusé aucun article, sauf un ou deux. En général, on reçoit des choses de bonne qualité, quoi. Et ça, c'est vraiment sympa.
Et ce qui est frappant également, c'est la variété de ces articles. Il n'y a pas vraiment de clivage qui est fait si le site, à la base, s'intéressait plutôt à la culture européenne du jeu vidéo, on va dire, la culture occidentale. Au fur et à mesure, il y a pas mal de jeux japonais qui ont commencé à être traités. Et aujourd'hui, c'est fait sur le même pied d'égalité, sans oublier que l'actualité n'est pas oubliée.
Effectivement, donc Philippe et moi, on était plutôt, comme tu dis, culture jeux vidéo occidentale, donc Amiga, etc. On n'avait pas trop touché aux consoles japonaises. Maintenant, on se rattrape bien, mais à l'époque, pas trop. Et effectivement, donc notamment Bruno et puis Lionel, donc ce sont qui ont été vraiment les premiers à rattraper le retard qu'on avait sur les grands classiques japonais, Final Fantasy, etc. Maintenant, on a eu aussi quelqu'un qui nous a envoyé un article sur un jeu qui a été développé dans les années 70 sur des micro-ordinateurs qui n'existent même plus aujourd'hui. Donc pratiquement chaque personne qui s'est greffée dans le processus a permis qu'une nouvelle facette de l'histoire des jeux vidéo soit couverte. Et ça, ça aussi, on y est arrivé parce que on a eu énormément de propositions, de contributions, quoi.
Et parmi tous les contributeurs que le site a eu, est-ce qu'il y a des articles qui t'ont surpris, dans lesquels tu as vraiment appris beaucoup de choses? Moi, je pense dernièrement, par exemple, l'article sur le jeu NetHack n'a pas manqué de me surprendre à bien des égards.
Voilà, alors là, c'était de celui-là dont je parlais là à l'instant. Effectivement, ça fait vraiment partie des articles que je suis heureux vraiment de mettre en ligne parce que ce sont des choses dont on parle très peu et en même temps c'est vraiment intéressant pour le plus grand nombre, je pense. Donc oui, il y a eu ça, j'ai pas d'exemple en tête, mais effectivement j'ai énormément appris. Je tiens à le dire ça publiquement devant la France entière qui nous écoute, j'imagine, que je fais ce site, c'est pour apprendre, c'est pas pour étaler ma science, et je pense que la plupart des gens qui le font sont dans cet état d'esprit également.
Alors on apprend des choses, mais on fait aussi des rencontres. Ce sera le troisième chapitre, mais juste avant un gros mix spécial émotion. On écoute une interprétation du thème de Shenmue. Le thème de Shenmue revisité par Laurent, tu devais être d'une humeur plutôt mélancolique le jour-là.
Je venais de finir le jeu, en fait.
Tout simplement.
Donc, y avait plein de choses qui me passaient par la tête. Donc, tous ceux qui ont joué savent de quoi je veux parler.
On va s'intéresser aux rencontres qu'on a pu faire par l'intermédiaire du site GroupXL et que ses fondateurs ont pu faire, surtout. La toute première personne à qui je pense, c'est bien sûr Ralph Baer. Tu vas nous présenter le personnage et nous parler également des circonstances qui ont fait que Ralph Baer vous a contacté, ou l'inverse.
Ben Ralph Baer, c'est un monsieur qui est âgé de 80 ans environ, qui est, je dirais au sens chronologique du terme, l'inventeur des jeux vidéo, parce que c'est le premier, il est le premier à y avoir pensé. Il n'est pas le premier à l'avoir fait, mais il est le premier à y avoir pensé. Donc c'est un électronicien américain qui travaillait dans les années 40 pour un fabricant de télévision, j'ai oublié la marque, c'est une marque américaine, et vers 1949, je dirais, on lui a demandé de réfléchir à une idée d'amélioration sur un nouveau modèle de télévision qui pourrait se démarquer de la concurrence. Et il a pensé à intégrer dans le poste de télévision un jeu. Il a pensé à un jeu de tennis qui est donc l'ancêtre de Pong, le jeu qui est sorti plus tard dans les années 70 avec les deux raquettes et la balle qu'on fait rebondir.
Mais là on parle carrément d'un écart de près de 20 ans, c'est ça, entre les deux jeux.
Voilà, ouais, là on est à la fin des années 40 effectivement. Il a mis au point ça au début des années 50. Sous la forme d'abord d'un circuit intégré à la télé, puis après sous la forme d'une boîte qu'on venait brancher dans la télévision elle-même, qui intégrait également un jeu avec lequel dans lequel on tirait sur l'écran avec un pistolet optique sur une cible. Donc c'était vraiment vraiment très en avance sur l'époque. Ça y avait pratiquement tous les éléments des premières consoles de jeux qui sont apparues dans les années 70.
Et l'interface pour jouer dans cet ancêtre de Pong avec la télévision, ça fonctionnait comment ?
Je crois que c'était en fait deux boîtiers avec une molette, mais ça reste à vérifier parce que j'ai travaillé là-dessus il y a quelques temps, je me souviens plus exactement. Puis il y a eu plusieurs versions et en fait ça a jamais été commercialisé, c'est ça le truc qui fait qu'aujourd'hui peu de gens connaissent Ralph Baer. Ça n'a pas été commercialisé sur le coup, mais il a jamais cessé d'y travailler pendant 15 ou 20 ans. Et c'est seulement dans les années 70 que son projet a été repris par une grosse boîte qui était Magnavox, donc une boîte américaine qui a été rachetée par Philips par la suite. Et dans les années 70, son projet a abouti à la création d'une console de jeu qui s'appelait l'Odyssée, qui est la première console de jeu à faire fonctionner plusieurs jeux, c'était très rudimentaire, il y en avait une dizaine, ils étaient tous inclus dans la console, mais il fallait acheter des cartes pour les débloquer. Et par la suite, il a laissé tomber les appareils électroménagers, je dirais, pour travailler uniquement dans le jeu, Ralph Baer, donc, et il a inventé... le jeu Simon, ce jeu que je pense que tout le monde connaît, avec l'espèce de jouet rond avec des boutons colorés qui appuient, qui s'illumine dans un certain ordre, et il faut appuyer dessus dans le même ordre.
Bonjour au petit dernier qui joue à Simon peut-être en ce moment.
Il vient de rentrer dans la chambre. Et donc voilà. Et ce monsieur, Albert, donc il s'est un petit peu fait voler la vedette par Atari, par Nolan Bushnell, qui est le fondateur d'Atari, qui a inventé le jeu Pong en 72, mais en fait qui s'était inspiré du jeu de Ralph Baer à l'origine, et qui a eu avec le succès qu'on sait. Et aujourd'hui, Ralph Baer n'est pas très connu, et il se bat un petit peu pour que son nom soit enfin reconnu du plus grand nombre, et sur Internet notamment, il est assez actif. Il a un site assez gros où il raconte toute l'histoire. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai pu faire un article sur lui. Et puis, il se balade pas mal, j'ai l'impression, sur les moteurs de recherche pour voir s'il y a quelqu'un qui parle de lui. Et apparemment, un jour, il est tombé sur nous. Et ça lui a fait plaisir. Il m'a envoyé un email en me disant qu'il était assez heureux de voir ça. Il nous encourageait. C'était assez succinct. Donc moi, je lui ai répondu pour lui dire que j'étais flatté, honoré, etc. Donc sur le coup, c'était vraiment génial de voir ça, de voir Albert qui m'écrit comme ça. Et il m'a répondu, il m'a envoyé un article qu'il avait écrit sur une autre de ses inventions en jeu qu'il avait développé dans les années 70. Et il m'a dit, si vous voulez, vous pouvez le traduire et le mettre dans votre site. Donc voilà, Ralph Baer, a contribué aussi au site Gros Pixel. Et voilà, ça me fait plaisir de pouvoir parler de lui, parce qu'il est vraiment pas très connu, quoi.
Alors ça vous fait quoi, Jean-Pierre et Lionel, de savoir que Ralph Baer, tout comme vous, a contribué à l'impact du site Gros Pixel, hein?
Ah, ça nous donne une base de travail. Ça veut dire qu'il y a un début de reconnaissance, quoi. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour rien. On travaille aussi pour remettre les choses à leur place, dans le sens où, comme le disait Laurent, il y a deux noms qui cherchent à arriver au premier plan, celui de Nolan Bushnell, celui de Ralph Baer, et l'histoire va devoir faire son choix. Donc déjà, là, c'est vrai qu'avant Gros Pixel, j'entendais beaucoup plus parler de Bushnell comme le vrai père du jeu vidéo. C'est avec GP que j'ai compris que c'était pas aussi simple que ça, quoi.
C'est vrai que c'est embêtant, cet aspect-là. L'histoire des jeux vidéo est relativement récente, finalement. Les premiers jeux vidéo datent donc fin des années 50, d'après toi, Laurent. Sinon, les autres aperçus qu'on a, c'est plutôt fin des années 60, début des années 70. Si on se rend compte qu'il faut déjà réinterroger l'histoire pour avoir la vraie version, ça implique justement de prendre les choses à bras-le-corps.
Ben oui, c'est vrai que moi, je lis assez souvent que les jeux vidéo ont 30 ans. Ce sont des choses qu'on lit dans des articles très sérieux.
La version commune étant que Pong est le premier jeu vidéo.
Voilà. Ce qui est, même si on se limite à Bushnell, c'est même pas vrai, puisqu'il en avait fait un autre juste avant, qui n'a pas très bien marché. Donc Pong, c'est le premier jeu vidéo qui a fait un succès commercial. Ça, oui, c'est vrai. Sans Pong, ça aurait peut-être pas évolué aussi vite. Par contre, avant Pong, il y a eu plusieurs autres exemples. Il n'y a pas eu que Ralph Baer, il y a eu Guy Botham en 58 qui avait développé un petit jeu vidéo pour une exposition sur un des ordinateurs qu'on fabriquait à l'époque. Il y a eu Space War au début des années 60 dans une université américaine, donc un véritable jeu vidéo qui préfigure des jeux comme Asteroid ou Combat qui sont sortis 20 ans plus tard, donc c'était pareil sur un énorme ordinateur avec un écran circulaire qui ressemblait à un scope radar. Donc ça, ce sont des jeux vidéo, des authentiques, mais ils n'ont pas été commercialisés. C'était simplement des expériences qui n'ont pas forcément donné suite. Mais par contre, lorsque les premiers commerçants entre guillemets du jeu vidéo, qui ont été Bushnell et Philips dans les années 70, etc. Ils se sont souvenus de ces jeux-là, et on a vu apparaître des titres qui leur ressemblaient pas mal.
Et ce début de reconnaissance dont parle Lionel, est-ce que toi tu le ressens vraiment à travers ton site Gros Pixel? On sait que le rétro gaming finalement reste relativement marginal aujourd'hui encore, la presse papier s'y intéresse très peu, si ce n'est à travers des dossiers d'une ou deux pages dans certains magazines généralistes. Quel est ton point de vue sur ce sujet?
Je pense que c'est vraiment ça ne peut faire que du bien si des gens qui viennent de l'extérieur un petit peu comme ça, des journalistes, des écrivains, des sociologues un peu prestigieux qui viennent s'intéresser aux jeux vidéo avec un regard curieux de cette façon-là, je trouve que c'est excellent. Tout le monde peut y gagner dans l'histoire.
Regard donc curieux, mais un peu fantaisiste également parfois. Tu n'as pas l'impression qu'on en fait un peu trop? On va vers un excès inverse, c'est-à-dire on tente d'intellectualiser un peu trop le jeu vidéo, médium qui reste un peu trop jeune pour cela.
Oui, et ça peut arriver dans certains cas, effectivement. Il m'est arrivé de... Je pense que pour l'instant, il n'y a pas encore une façon d'écrire sur les jeux vidéo qui puisse faire l'unanimité, qui puisse mettre tout le monde d'accord. Je pense qu'il... Bon, au niveau de la presse spécialisée, il y a un certain manque, un petit manque au niveau de l'intellectualisation. On est peut-être encore resté sur des critères qui sont toujours les mêmes pour tous les jeux, un petit peu trop uniformes. De notre côté, par contre, quand on a affaire à des sociologues qui écrivent sur les jeux vidéo, c'est vrai que par moments, on s'éloigne complètement du sujet. C'est vrai que le jeu vidéo, c'est un divertissement, c'est un jeu, c'est fait pour se faire plaisir avant tout. Mais je pense qu'à l'arrivée, quand tout ça sera un peu défriché, je pense qu'on aura quelque chose d'intéressant et que les jeux vidéo seront mieux reconnus comme forme artistique, comme culture. À mon avis, ça peut être intéressant. Par contre, ce qui est à éviter, ça serait qu'on essaye de lancer une espèce de mode du jeu vidéo rétro, comme on lance la mode des pattes d'éléphant ou de Claude François ou je ne sais quoi. Parce que là, par contre, il pourrait y avoir un engouement rapide sur les jeux vidéo rétro, sur le rétro gaming, etc. Mais après, une fois que le soufflet serait retombé, il retournerait dans la confidentialité, puis personne ne s'y intéresserait.
Est-ce que c'est pas déjà arrivé, Laurent, cette récupération commerciale du rétro gaming? Parce que depuis quelques années, on a quand même pas mal de remakes. On a des pseudo-anthologies par Namco, par Atari, de classiques. La bulle est crevée, quoi.
J'ai pas l'impression que ça fasse un carton. Hein.
Non, enfin, c'est bien ce que je dis. Hein. C'est totalement inutile. C'est ce que tu disais toi-même. C'est-à-dire que ça fait passer le rétro gaming pour quelque chose de futile.
Oui, effectivement, il y a une récupération. Il y a quand même un infogramme qui s'appelle Atari. C'est pas pour rien. C'est pas simplement pour percer aux États-Unis. C'est aussi pour récupérer peut-être l'image mythique de cette société. Mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop à cette espèce de revival sur les jeux vidéo rétro. Je pense pas que les rétro gamers, donc les adeptes du jeu rétro, je pense pas qu'ils soient prêts à payer pour ça, parce que c'est pas dans leurs habitudes. Et puis les joueurs qui connaissent que la période récente des jeux vidéo, c'est pas des éditeurs qui doivent attendre qu'on leur explique vraiment de façon constructive et intéressante pourquoi ces jeux-là peuvent être bien pour eux.
Il y a un produit qui est sorti il y a pas très longtemps, si je me souviens bien. C'est une manette de l'époque de la console Atari qui est avec donc juste la manette dans laquelle se trouvent intégrés quelques jeux de l'époque Atari, justement parmi les premiers, mais il paraît que c'est pas forcément les meilleurs.
Ouais.
Et ça pourrait être intéressant de savoir, parce que bon, ça j'ai pas trouvé d'infos, si ce produit justement se vend, parce que dès qu'on voit la manette, les gens qui ont connu savent ce que c'est. C'est la manette de l'Atari.
Ouais. C'est vrai que c'est une initiative assez sympa, cette manette. Peut-être que les puristes ont été choqués de voir qu'on réduisait le hardware de la VCS entièrement. Ça voulait peut-être entre guillemets dire qu'il y avait absolument rien dans cette grosse boîte noire qu'on nous vendait à l'époque. On met tout dans la manette maintenant. Effectivement, c'est assez marrant. Mais j'ai J'ai bien aimé l'idée, effectivement. Maintenant, je sais pas si c'est bien vendu.
Et dans un même ordre d'idée, il vient de sortir au Japon un bundle à l'occasion de l'anniversaire, ça doit être le 20e anniversaire de Space Invaders. Et dans ce bundle, on trouve une espèce de boîte dans laquelle on met la manette PlayStation 2 à l'intérieur et on se retrouve avec la manette de commande d'origine de Space Invaders. Donc c'est vrai que là on voit quand même qu'il y a une volonté d'exploiter le commercialement un peu le rétro gaming.
Oui, c'est pas une mauvaise idée encore parce que ça permet de retrouver un peu l'ambiance de l'époque. C'est pas simplement transposer sur les supports d'aujourd'hui les jeux rétro. C'est vrai que si on a la machine devant soi telle qu'elle ressemblait à l'époque, ça peut être intéressant. Non, mais de toute façon des initiatives comme celle-là, il risque d'y en avoir de plus en plus. Maintenant, bon, moi, je pense même le site Gros Pixel, de façon générale, on n'est pas trop là-dedans.
On a un peu débordé sur le sujet déjà, mais on se retrouve dans quelques instants pour parler de l'avenir de Retro Gaming. Ce sera le dernier chapitre de cette émission. Mais avant cela, un gros mix spécial New Age. On écoute une variation sur le thème de Shock Rock. Dernière partie de cette émission consacrée à l'émulation rétro gaming et à Gros Pixel. Au téléphone, Laurent, le webmaster du site Gros Pixel, est toujours avec nous. Laurent, tu es toujours avec nous, rassure-moi.
Oui, surtout que c'est la première fois que j'entends une radio qui coupe pas les solos de guitare, c'est sympa.
On fait de notre mieux. Et dernière partie, donc, l'avenir du rétro gaming. On a un peu débordé dessus. Finalement, on n'a pas pu parler de toutes les rencontres. On aurait tant voulu parler de ce concept d'émergence, n'est-ce pas, mon camarade Lionel?
On aurait voulu, oui. Une chose qui me paraît assez fondamentale et que le rétro gaming et l'émulation a mis à jour, c'est que, en fait, on est en train de s'apercevoir, alors qu'aujourd'hui, on a un hardware d'une puissance démesurée. Les derniers PC, la Xbox, ont fait à peu près ce qu'on veut dessus. Je veux dire, c'est l'affichage graphique, c'est plus un problème, quoi. La mémoire vidéo. On est en train de s'apercevoir que, paradoxalement, c'est quand il y avait le plus de contraintes qu'on arrivait sous la pression, justement, de toutes ces contraintes techniques, de générer du gameplay efficace. Et on a, aujourd'hui, quand on regarde les jeux, il nous manque quelque chose à nous, joueurs de l'ancienne génération. C'est-à-dire qu'on veut se dire, mais de quoi sont-ils capables par rapport à ce palier de technologie? Et on l'a plus, ça, aujourd'hui. Et on l'aura plus du tout, puisque la prochaine génération de machines, il y aura plus du tout de contraintes. C'est-à-dire que ce sera, enfin, à la limite, on y est déjà avec la Xbox, quoi. Et ça nous énerve parce qu'on se dit, mais il n'y a aucun mérite, ils font ce qu'ils veulent là-dessus.
Ce qui implique également que quand on était confronté à la limite, ça poussait peut-être aussi à mettre en place de nouveaux concepts.
Aussi, oui, puisque il y avait une limitation technologique. La 2D, on a fait de la 2D pendant 15 ans parce qu'on ne pouvait pas faire la 3D, ou alors de manière très rudimentaire.
Quoique dans les années 80,
oui, mais c'était la 3D rudimentaire.
Voilà, parce que je voulais revenir, il faut nous intéresser encore un peu au jeu, on va se quitter à présent. Un jeu comme Sentinel, dans les années 80, imposait à la fois une nouvelle charte graphique, j'allais dire, mais une nouvelle technologie, mais aussi un nouveau concept.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Sentinel, c'est un jeu, d'ailleurs, je vais d'abord dire que c'est un jeu de Geoff Crammond, qui est un grand monsieur de l'informatique, qui a fait énormément de jeux. C'est un des premiers jeux en 3D qu'on appelait à l'époque la surface pleine, c'est-à-dire qu'on avait non seulement un univers en trois dimensions, mais pas seulement avec les angles, on avait aussi la texture. Bon, c'était une texture simple, c'était juste de la couleur. Et c'est un jeu qui a surpris tout le monde, parce qu'il est entièrement sorti des sentiers battus. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait les shoot'em up, on avait les jeux d'aventure, et puis on s'est retrouvé en face d'un jeu où on avait de la 3D. Alors déjà, surprenant. Et le concept du jeu, le but du jeu était très simple. Imaginez que vous êtes dans un immense monde, plus ou moins torturé, et que tout en haut du monde, il y a une sentinelle qui tourne sur elle-même régulièrement comme un phare, et vous devez prendre sa place. Et pour prendre sa place, le seul moyen, c'est de se téléporter de case en case en générant de l'énergie. Bon, y a moyen d'en récupérer. Et finalement, de monter petit à petit jusqu'à l'avoir, l'absorber, prendre sa place. Et là, on a gagné un niveau. C'est quelque chose qui était absolument novateur, on va dire. Et en fait, ce jeu-là a été peu perçu par les gens parce que justement, on sortait des sentiers battus et les gens n'avaient pas l'habitude de ce genre de jeu. Peu de gens se sont accrochés. Par contre, ceux qui se sont accrochés, ils se sont accrochés pratiquement jusqu'au bout.
Et finalement, le jeu était presque plus intéressant dans sa version originale, sortie dans les années 80, que le remake que l'on a pu voir à la fin des années 90, malgré tout de même une musique de John Carpenter.
Oui, et la musique de John Carpenter, la sacrée musique, paraît-il, que j'ai hélas pas pu entendre. Bon, personnellement, je trouve que le remake est moins bon. Bon, c'est mon avis à moi. Parce qu'ils ont enlevé des petits détails qui faisaient un peu le charme. C'est-à-dire que, par exemple, étant donné que le but du jeu est d'arriver à monter dans l'univers du monde, il faut regarder où la sentinelle surveille. C'est-à-dire qu'en fait, comme elle tourne sur elle-même, elle regarde qu'à un endroit à la fois. Et dans le remake, si on veut, les graphistes ont essayé de faire quelque chose de très torturé, puisque c'était l'époque du PC, de la 3DFX, de la 3D avec des textures, tout ça. Donc ils se sont lancés à fond là-dedans. Bon, pourquoi pas. Mais ils ont fait des formes tellement torturées que, en fait, le concept tout simple de regarder justement où la sentinelle regarde était impossible. On ne savait absolument pas où elle regarde. Et en fin de compte, on peut pas jouer.
Finalement, la technologie peut être considérée cette fois-ci comme un garde-fou, quoi. Quand on n'a plus de barrière, on en arrive à faire n'importe quoi.
Oui, et moi, je voudrais rebondir sur la question que tu posais tout à l'heure à propos de l'avenir du rétro gaming. Je sais pas si Lionel et Laurent sont d'accord avec moi, mais quand on regarde les tests qui sont sortis, on va dire, ces deux dernières années, donc de jeux récents, comme par exemple les remakes de Frogger. En ce moment, il y a une petite volonté chez certains éditeurs de faire des remakes des vieux jeux qu'on a aimés quand on était tout gamin, surtout les faire à la sauce 3D, parce que maintenant, ce qui marche, c'est la 3D. Et pour autant, je me souviens, bon, bah, si jamais je me trompe, mais je pense qu'il n'y a eu aucun remake qui a été intéressant. C'est-à-dire que tous les journaux actuels d'informatique ont noté le jeu en disant « c'est mignon, mais ça ne sert pas à grand-chose ». Donc déjà, dans les journaux spécialisés, ils ont eu quand même une cote assez basse. Et pour autant que je sache, tous ces remakes à la sauce de maintenant n'ont pas pris. Donc le rétro gaming est quand même un support qui permet de retrouver le jeu d'origine, même si c'est pour se dire avec la nostalgie « ah, qu'est-ce qu'on a pu jouer à ça ?» Point. Mais de là à payer, par exemple, un produit à 40-50 euros pour revoir un machin qui a été mis à la sauce de maintenant, je pense que le concept est peut-être un peu difficile à prendre.
Un concept 2D qu'on adapte en 3D, dans 95% des cas, on s'y casse les dents.
C'est pas forcément vrai, parce qu'on voit que Sega a adapté sa série, la Sega Edge, en ressortant donc Space Harrier. C'est un jeu qui se prête très bien à la 3D. Et donc le résultat en 3D est satisfaisant. On nous dit que c'est de la 3D qui est vieille, qui est dépassée. Non, c'est de la 3D qui est quand même plus jolie que ce qu'on voyait sur PS1. Alors bien sûr, c'est pas à la hauteur de ce qu'on voit sur Xbox, mais en conservant un gameplay qui a fait ses preuves quand même, comme c'est le cas pour Space Harrier et pour Golden Axe quand même, c'est des jeux qui étaient quand même très amusants à l'époque. Là, on les voit en 3D, le résultat ne choque pas. Le résultat ne choque pas. Graphiquement, c'est joli, c'est pas magnifique, mais c'est joli. Et puis, on retrouve toujours ce plaisir de jeu qu'on avait sur ces vieux jeux, sur Golden Axe. On a toujours le plaisir d'avancer, de taper les monstres, de monter sur les petites bestioles que chevauchaient les adversaires. Et c'est vrai que c'est très rigolo, oui, et mais... que le jeu n'a pas vieilli, ne fait pas dépasser, et c'est intéressant.
Oui, mais tu retrouves un plaisir que tu as déjà eu. Est-ce que d'autres personnes qui découvriraient le jeu pour la toute première fois trouveraient un quelconque plaisir ?
C'est pas évident, mais ça c'est vrai pour tout ce qui va concerner le rétro gaming. Il y a des jeux qui ont très bien vieilli parce qu'ils proposaient un concept très fort à la base, comme un peu comme Tetris. Tetris, ça peut être décliné sur la Xbox 4. Ce sera toujours un jeu qui aura du succès. Hein. Un Puzzle Bobble, pareil. Un Puyo Puyo, c'est pareil. Il y a des jeux qui ont plus mal vieilli parce que le concept était peut-être plus était peut-être moins bien conçu, moins bien prévu, et puis que c'était des jeux qui reposaient plus sur la technologie. J'ai en mémoire là par exemple Shadow of the Beast, un jeu sur Amiga qui était considéré comme révolutionnaire à l'époque. Bon, je défie quiconque de trouver un quelconque intérêt à ce jeu maintenant. Ce jeu, il reposait sur sa qualité technique. Son gameplay était quand même très limité. C'était très dur, très astreignant. On recommençait 50 fois la même chose. On avançait par coup de 10 secondes dans le jeu.
Même à l'époque, hein.
Comment?
Même à l'époque, on le considérait comme ça.
Hein. Même à l'époque, déjà. Alors maintenant, en plus, c'est un jeu qui à mon avis, a très mal vieilli. Les concepts les plus simples ont probablement bien vieilli. Et pourquoi pas retransmettre ces concepts en les adaptant aux nouvelles technologies? Moi, je dis pourquoi pas.
Moi, je divague un peu, mais j'ai l'impression qu'il y a eu, à certains niveaux, pour certains jeux en tout cas, un déplacement du niveau de plaisir. Par exemple, les jeux à progression, comme les Contra, qui a fait l'objet d'un remake sur PS2, l'intérêt semble quand même aujourd'hui plus limité, cet aspect du plaisir qu'on pouvait tirer dans un jeu vidéo, d'avancer par palier en insistant.
C'est vrai, effectivement. Il y a le je meurs, je recommence 50 fois, ça ne fait plus recette aujourd'hui. C'est vraiment un gameplay qu'on veut bien recommencer 2-3 fois.
Il faut qu'il y ait quelque chose pour motiver derrière le joueur, pour l'obliger à recommencer. Je pense que les shoot'em up, ils évoluent plutôt pas mal dans ce style-là parce qu'ils proposent des systèmes de score. Donc ça motive le joueur pour recommencer 50 fois la même chose. Maintenant, un jeu qui ne propose pas ce système de score, ce challenge-là, c'est peut-être plus dur de justifier de refaire 36 fois la même chose.
Malheureusement, il va falloir conclure tout de même. On est un peu parti dans tous les sens à la fin de cette émission, mais ça prouve qu'il reste encore beaucoup à dire. Et vous l'aurez compris, la morale de cette émission, c'est que l'amateur de vieux jeux vidéo radote très vite. Laurent, je te remercie. Satisfait de ta première prestation pouchienne?
Je suis très satisfait. Je voulais juste dire que même si on a donné l'impression pendant cette émission de ne s'intéresser qu'aux jeux anciens et à dénigrer un petit peu ce qui se fait aujourd'hui, en fait dans la réalité des choses, la plupart des gens qui travaillent sur GroupXL ont tous une console, une des trois consoles qui sont en vente actuellement, et la GameCube notamment fait un bon carton dans l'équipe, la Xbox aussi, j'en ai une, la preuve, et on est quand même aussi dans l'actualité, et on considère que les jeux vidéo c'est de le passé, le présent et l'avenir dans leur globalité.
Vous êtes même voire un peu fanboy par moment, mais ça c'est un autre débat.
Voilà.
faut l'admettre. Alors grospixels.com, grospixels.com, tout simplement. On se quitte sur le gros mix tiré du jeu Touch Em and Earl, paru dans un premier temps sur Mega Drive. Il y a eu un remix il n'y a pas longtemps, un remake, une suite plutôt, même sur Xbox, à découvrir. En tous les cas, c'est à petit prix. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement.